Alors hier, des centaines de milliers de personnes partout dans toute la France qui faisaient ces manifestations, qui se rassemblaient en hommage à toutes ces victimes. Et puis en ce moment-là, cette manifestation à Perpignan, mais aussi à Paris. Et on voit un large soutien, un soutien massif donc aux victimes du journal Charlie Hebdo. Et puis aussi à celles qui sont tombées dans la rue, et puis aussi à celles qui sont tombées dans cette épicerie cachère. Beaucoup ont imprimé ces affiches « Je suis Charlie » pour montrer leur solidarité face à cette barbarie. Alors bien sûr, on ne peut qu'être solidaire à ces familles qui sont endeuillées, et bien sûr, on est avec elles hein, et on comprend la douleur et on voit aussi le crime qui a été commis. Et quoi que pouvait être ce journal, parce que c'est quand même un journal qui est assez terrible, hein, offensant, offenseur, blessant, moqueur, blasphémateur, provoquant, vulgaire, ça ne justifiait pas d'abattre ces dessinateurs d'une manière comme celle-là, lâche. Hein. Et le crime va plus loin encore, puisque ça dépasse simplement le fait que des vies humaines ont été prises. Mais c'est une tentative aussi pour empêcher la liberté d'expression, la liberté de pouvoir eh bien, avoir une liberté de conscience et de pouvoir dire ce qu'on pense. Et si je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Charlie, parce que j'approuve pas les dessins de Charlie, néanmoins, je soutiens quand même Charlie. Dans le sens où je soutiens la liberté de croire ce que l'on veut ou la liberté de dire ce que l'on veut. Il y a une phrase qu'on a entendue un petit peu là ces derniers temps, et puis on l'a entendue par-ci, par-là, elle a déjà été prononcée. On l'attribue à chaque fois à Voltaire. Finalement, ce n'est pas Voltaire qui l'a prononcée, mais c'est une auteure qui a écrit un livre sur Voltaire et qui a mis des guillemets comme si Voltaire l'avait dite. Et en fait, ce n'était pas Voltaire, mais c'est elle. Donc elle a dit que c'était elle. Elle s'appelle Evelyn Beatrice Hall et elle a dit: Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et au-delà de l'auteur, la pensée est intéressante. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut lire, article 18, toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article suivant, 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est des principes que nous approuvons, hein, des beaux principes. Et si aujourd'hui en France, on est quand même libre d'appliquer ces principes, on peut vivre une vraie liberté, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on regarde l'histoire, et il faut quand même s'en souvenir, et ce n'est toujours pas le cas dans beaucoup de parties du monde, hein, c'est clair qu'ils rejettent hein, ces articles. Quoi que ce soit, un bien et un droit qui est fondamental, c'est fondamental que d'accorder à tous la liberté de penser, de conscience, de religion, d'opinion ou d'expression. Dans le passé, beaucoup sont passés par le bûcher, à cause de leurs convictions, de leur foi, de leur religion, et souvent parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Alors, eh bien, ils montaient sur un bûcher. Dans le présent, vous le savez, on le voit, hein, le fait de ne pas être musulman peut parfois nous amener à être décapité. Donc, c'est ce que l'on voit en ce moment. Et Jésus l'avait prédit d'une certaine manière lorsqu'il a dit dans l'évangile de Jean: L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et c'est vraiment ça. Ils croient rendre un culte à Dieu et en tuant les gens et en faisant du mal à leurs prochains. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit supprimer ces mécréants? Voilà, on en termine. Alors, non, bien sûr que non. Bien sûr, on condamne Et ben, il faut, c'est clair qu'il faut enfermer hein, ceux qui se comportent comme des fous, mais il ne faut certainement pas adopter cette attitude qui est aussi radicale que ces extrémistes ont. Parce que la liberté est importante, hein. C'est quelque chose qu'il faut défendre. Il ne faut pas oublier non plus que même des chrétiens, des frères et sœurs, qu'on reconnaît vraiment comme des enfants de Dieu, ont fait parfois l'erreur de vouloir défendre les intérêts de Dieu en utilisant les armes et en étant violent. Ils ne voulaient pas qu'on puisse penser autrement. Donc ça a été le cas dans l'histoire de l'Église. En 2009, c'était le 5e centenaire de Jean Calvin. Et quand vous regardez l'histoire de Jean Calvin, alors personne ne nie c'est un vrai enfant de Dieu, personne ne peut remettre en question la place qu'il a même dans le tableau du protestantisme. Hein, c'est une figure du protestantisme hein, et beaucoup de ses écrits, ben, voilà, on dit Amen, hein, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Hein. Mais Jean Calvin était aussi, en tout cas est devenu, peut-être il n'était pas comme cela au départ, en tout cas c'est ce que je lisais, mais il est devenu une personne dure, très dur, hein. Il suffit de lire ses écrits, de voir comment il est, mais alors d'une virulence terrible avec quelqu'un qui ne croit pas comme lui. Et particulièrement quand il est devenu responsable de la ville de Genève, hein, et voilà, il était parmi ceux qui s'asseyaient à la tête, là, il va conduire cette ville d'une manière autoritaire et despotique. Il s'estimait prophète de Dieu, et recevant eh bien, la compréhension des écrits, et donc eh bien, ce qu'il disait, c'était parole de Dieu. Quoi. Il fallait l'accepter, puisque eh bien, il était son envoyé. Et malheureusement, eh bien, on a élevé des bûchers. Alors on pense surtout à un bûcher avec Michel Servet, mais il y en a eu d'autres. Hein. Et puis parfois, les dissidents, on leur donnait la question. Hein, donc ils passaient sous la torture pour qu'ils puissent dénoncer d'autres. Hein. Et c'est effroyable, c'est même dérangeant, en fait, pour nous de pouvoir dire ces choses, hein, parce qu'on se dit, mais c'est clair qu'il connaissait Jésus-Christ. Hein, et donc, c'est vraiment dérangeant. Mais le cœur de l'homme, il est mauvais. Et il suffit que le cœur de l'homme tombe, il suffit que l'homme marche par la chair, et puis il devient comme il était autrefois. Hein. Nous étions autrefois insensés, égarés, haïssants, nous haïssant les uns les autres. Hein. C'est une réalité, ça. Et dès qu'on tombe dans le péché, eh bien, on retombe dans cette attitude de cœur-là, haïssant et haïssant les uns les autres. Parce que la chair, elle est méchante. Hein. Quand vous voyez Saul de Tarse, qui était un croyant, entre guillemets, hein, voilà, dans l'Ancien Testament, qui voulait aimer Dieu, servir Dieu, hein, mais qui était très violent et qui tuait au nom de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus l'arrête, lui ouvre les yeux et le délivre et l'amène dans une nouvelle vie, une vie par l'Esprit, où là il était libéré et s'est mis à aimer même ceux qui le traînaient, qui le jetaient dehors, qui le battaient. Mais j'aimerais vous parler d'un autre personnage de l'histoire, c'est un baptiste, hein, il s'appelle Roger Williams. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour tout le monde. Il est né à Londres en 1603. Il a reçu une formation théologique à Cambridge. Il est devenu donc pasteur à sa sortie. Donc, il s'est occupé il était pasteur un peu dans une famille, une grande famille. Et puis, en 1630, il s'embarque pour la colonie du Massachusetts, donc aux États-Unis. Pardon, Kimberly, si je prononce très mal. Sa conception de la religion était alors en avance sur son temps. Il veut la neutralité de l'État dans les affaires religieuses. Mais tout de suite, quand il va commencer à prêcher ça, il va se retrouver avec une forte opposition et il va être contraint de quitter cette colonie et d'aller se réfugier dans une communauté amérindienne qui était à côté. Et quand il va arriver là, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va respecter c'est les personnes qui sont là. Donc, il va respecter leur culture, respecter leur tradition. Et plutôt que d'arriver comme un conquistador qui prend les terres et qui s'installe, il va acheter les terres, des terres, donc, à ces Amérindiens. Et puis, il va baptiser cette terre Providence. Plus tard, ça va devenir Rhode Island. Et Williams va plaider et va vraiment instaurer la liberté religieuse. C'est là qu'il va, fonder une église qu'il va nommer Première Église Baptiste Providence. En fait, c'est la première église baptiste aux États-Unis. Donc, alors, il faut savoir qu'il y avait déjà une certaine acceptation, une tolérance en Angleterre, mais cette tolérance, elle était circonscrite dans les milieux protestants. C'est-à-dire, il y avait une tolérance des communautés protestantes les unes des autres. Mais lui, en arrivant là-bas, il va vouloir aller beaucoup plus loin. Donc, puisqu'il va dire, il veut la liberté de culte, aussi bien pour les juifs, pour les musulmans, que les catholiques, et bien sûr les protestants. Donc, on ne tue plus, on ne persécute plus, on ne rejette plus à cause de la différence. C'était quelque chose, hein? Et bien que c'était une conception qui était difficile à accepter, son idéal va vraiment triompher. Pourquoi ? Parce que 2 siècles plus tard, le principe de la liberté de culte et de séparation de l'Église et de l'État va être inscrit dans la Constitution américaine. Et puis on sait plus tard, hein, l'influence que ça a pu avoir même après ici sur nous, puisque nous on est une association selon la loi 1905, donc avec séparation de l'Église et de l'État. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment cher à la foi baptiste. Chacun doit être libre de dire et de croire ce qu'il veut, même si on n'est pas d'accord, si c'est difficile parfois à entendre. Sinon, il y a tout de suite la menace de tomber vers des extrémismes et vers un totalitarisme, hein. Comme dans certains pays où le fait même de posséder une Bible, c'est déjà un crime et c'est interdit. Comme par exemple en Corée du Nord notamment, être libre de croire ou de ne pas croire, être libre de se déterminer pour ou bien contre, sans être inquiété, c'est en accord avec l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile, à aucun moment, Jésus dit « mais prenez votre épée ». Et défendez-vous avec l'épée. Au contraire, quand Pierre va sortir l'épée, tout de suite le Seigneur va dire « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et donc le principe de se défendre avec les armes pour essayer d'imposer sa foi, ou voilà, avec la force, hein, on ne trouve pas ça dans les Écritures. Ce qu'on y voit au contraire, c'est le contraire, c'est la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. C'est par l'amour que Dieu veut gagner les cœurs. C'est pas par la pression, c'est pas par l'obligation qui finalement produit plutôt la rébellion et l'endurcissement, mais c'est par l'amour que Dieu veut vraiment briser les cœurs. Et Jésus n'a pas résisté devant ceux qui venaient l'arrêter. Il s'est laissé mener comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et c'était ce qu'il avait enseigné à ses disciples quelque temps plus tôt, puisqu'il leur avait dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors présente-lui aussi l'autre. » Et il faut une grande puissance, une puissance énorme, hein, une puissance divine, une puissance céleste pour réussir à prendre un coup et ne pas rendre le coup. Ça, c'est vraiment difficile parce que humainement, eh bien, voilà, il y a une envie de réagir. Et on se demande comment parfois certaines branches du christianisme ont pu essayer de s'imposer par la force ou de défendre leurs droits par la force et par les armes. Le christianisme, selon Jésus-Christ, hein, parce qu'il y a aussi un christianisme qui n'est pas toujours selon Jésus-Christ, hein, il ne permet pas d'imposer sa foi. C'est plutôt une offre, c'est une invitation qui est donnée. Et chacun est libre de dire oui ou de dire non. Laissez l'autre croire ce qu'il veut croire. Hein. Et donc la liberté de conscience, la liberté de culte, ce sont des principes qui sont dignes du christianisme, dignes de Jésus-Christ. Et humainement, c'est vrai que humainement, on a parfois du mal à accepter que quelqu'un d'autre puisse penser autrement, puisse croire autrement et une autre conviction que soi. Ça dérange. Mais il faut accepter de croire, hein, accepter, pardon, que l'autre puisse croire, hein, autre chose. Et Dieu lui-même l'accepte, hein, puisqu'il laisse des millions et des millions de personnes vivre quoique elles repoussent l'évangile, et Dieu leur permet de vivre encore des décennies paisiblement. Donc Dieu l'accepte. Dieu les laisse. Dieu pourrait supprimer. Tu n'as pas cru. Pof, terminé. Ça irait vite. Hein? Mais non, Dieu les laisse. Il leur laisse le choix. Dans les évangiles, Jésus nous a donné une parabole. C'est celle de l'ivraie et du blé. Donc, ils poussent tous les deux ensemble parce qu'un ennemi est venu. Il a jeté de l'ivraie dans le blé. Et les serviteurs vont dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Veux-tu que nous arrachions l'ivraie ?» C'est fort. Que nous arrachions, c'est très violent quand même. Hein? On arrache pour quoi faire ? Pour détruire. Hein? Et le maître répond, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, pas à vous, au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et là, on a une illustration des mensonges, des fausses doctrines, des personnes croyantes, entre guillemets, qui ressemblent au blé, mais qui ne sont pas le blé, qui sont de l'ivraie. Et Jésus dit, ce n'est pas votre tâche d'essayer de l'arracher. Laissez. Vous, occupez-vous du blé. Prenez soin du blé, et puis de ceux qui deviendront blé. Hein, c'est ça, on cherche, mais qui va devenir le blé ? Qui va être celui qui reçoit la semence et qui va porter beaucoup de fruits ? C'est ça qui est important. On proclame la vérité et on ne s'occupe pas de l'ivraie. Quelle différence, quand vous pensez à cette parabole, ce principe, cette différence entre la parole de Jésus et puis certaines paroles du Coran ? C'est effroyable. Hein ? Il y a une vraie différence hein, dans la vision. Si on prend une lecture littérale du Coran. Jésus a donc donné une règle, la règle d'or, elle était affichée, elle y est encore. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est quelque chose que vous retrouvez un petit peu partout, même avant que Jésus le prononce, hein, dans des écrits de Bouddha, de Confucius, de Socrate, ou bien d'autres. Hein. Mais c'est tourné d'une manière inverse. Il est dit, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est toujours tourné de cette manière. Donc c'est négatif. Et notre Seigneur pousse plutôt à un acte positif. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est très différent. Ça, c'est l'amour, en fait. Aller faire volontairement aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et celui qui aime, il ne va pas simplement se retenir de faire le mal, mais il va aller au-devant de la personne avec un désir de faire du bien, de lui faire du bien. Et ça, c'est vraiment différent. Parce qu'on peut se retenir de faire du mal à quelqu'un et être dans la complète indifférence. En fait, on n'aime pas. On ne veut pas faire le mal, mais on n'aime pas. Par contre, faire du bien, alors là, ça implique hein, un investissement de tout l'être, du cœur, de l'âme. Être résolu à faire du bien, à être actif dans un désir de bénir, d'aider, de soutenir, d'aimer, de prier. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse ? J'aimerais qu'on me respecte, que l'on m'accepte, qu'on m'autorise à dire ce que je crois, à partager ma foi, qu'on me laisse libre, libre d'adorer mon Dieu, libre de parler de lui. Mais si c'est ce que je désire pour moi-même, alors eh bien, je dois aussi l'accepter pour l'autre. C'est ce que dit le Seigneur. En novembre 2013, il y a une nouvelle qui tombe. L'Angola interdit l'islam. Il détruit les minarets. Alors, il faut savoir que l'Angola, c'est 95% de chrétiens de toutes les dénominations, une moitié de catholiques et puis un peu plus d'un quart, je crois, de protestants évangéliques. Et il y a simplement 1% de musulmans et des animistes. Mais que penser de cette nouvelle ? Est-ce que ça reflète le christianisme ? Et en fait, il s'avère que apparemment, l'information était fausse. C'était un journaliste qui avait dit ça, mais ça n'a pas été confirmé par le gouvernement, au contraire. Alors oui, certains minarets ont été détruits ou mosquées. Alors il a été dit que les permis de construire n'étaient pas valides, donc voilà, ça avait été détruit. C'est vrai aussi que du fait qu'il y a une large majorité de ceux qui se revendiquent du christianisme et des minorités, ben, il y a des persécutions de ces minorités. C'est une réalité. Mais l'Angola dit non, nous n'interdisons pas l'islam. Et heureusement, parce que la pensée chrétienne interdit de faire le vide pour prêcher ses convictions. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, eh bien, même si je n'adhère pas, même si je ne suis pas du tout d'accord, et même je m'oppose à certains enseignements religieux, j'accepte qu'on puisse croire sans que j'en sois dérangé. En tout cas, il ne faut pas que je le sois. C'est un droit, et c'est un droit qui nous permet, nous, d'exister, en fait. Hein. S'il n'y avait pas ce droit, on n'existerait pas, ou on aurait du mal à exister. Et là où ce droit n'existe pas, eh bien, le christianisme est insignifiant. Hein. Il est souvent, il a du mal à se développer parce que c'est empêché. Par contre, là où le christianisme est influent, alors eh bien, il y a ce droit. Ce droit qui demeure et aussi eh bien, les chrétiens peuvent vivre en paix. Et Dieu veut qu'on vive en paix. Il nous a demandé de prier pour les autorités pour qu'on puisse vivre cette paix. Quelle différence avec ce qu'enseigne Jésus, avec l'esprit du christianisme. Regardez Romains 13, 8 à 10. Il dit ici, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et aimer les autres, c'est l'accomplissement de la loi, nous dit la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de tous ses enfants. Et on trouve ici l'aspect de ne pas faire le mal, hein, notamment dans les 10 commandements, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. L'amour ne fait point de mal au prochain. Mais l'amour va aller plus loin. L'amour va chercher à faire du bien au prochain. Il pousse à aimer ses ennemis, à bénir ceux qui vous maudissent, à prier pour ceux qui vous maltraitent, à faire du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, c'est très, très fort. Et on voit que l'amour, c'est vraiment quelque chose de positif. Faire du bien à ceux qui ne nous aiment pas, c'est difficile. Hein? C'est encore une fois, c'est divin. Quand on se dit l'amour pousse à bénir ces fous, ces extrémistes, ça semble même déraisonnable de le dire. Je dis comment c'est possible? Et pourtant, c'est ce que dit Jésus. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est une puissance beaucoup plus forte que la haine. Et Dieu veut finalement que son amour il soit visible dans nos cœurs vis-à-vis de cette haine qui est dans le monde. Oui, mais alors comment aimer ceux qui abondent dans le mal, ceux qui abondent dans la violence, qui abondent dans le péché? Est-ce qu'on va cautionner le mal? Mais aimer, bénir, prier pour les méchants, ça ne veut pas dire qu'on accepte leur manière d'agir. Et la vérité, elle va pousser à l'amour, elle va pousser à accepter l'autre, mais l'acceptation ne veut pas dire approbation. C'est « j'accepte que l'autre existe ». Et qui puissent avoir des pensées parfois qui sont dramatiques ou des dessins qui sont vraiment offensants, mais ça ne veut pas dire que j'accepte. Paul a dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Condamnez les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est ça, condamnez les œuvres, mais pas condamnez les personnes, condamnez les œuvres pour dire « Non, je n'accepte pas ça, je ne suis pas d'accord. » c'est mauvais et je me désolidarise de ça, hors de question. Et notre responsabilité vis-à-vis des personnes, c'est aimer-les. Même si elles sont ennemies, aimer-les. Paul dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Et donc, la consigne était pour ceux du dehors de ne pas les juger, de ne pas s'occuper d'eux. Dieu le fait et il le fait. C'est lui qui les juge, c'est lui qui les condamne et c'est lui qui s'en occupera. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et donc, si quelqu'un sème le mal, c'est sûr, un jour ou l'autre, il va récolter le mal. Si l'homme va semer la haine, s'il va semer le jugement, eh bien, un jour, il récolte la haine et il récolte le jugement. Et si quelqu'un sème la haine et la violence, eh bien, il récolte aussi la condamnation. Regardez Romains 12 et versets 18 à 21. Romains 12, versets 18 à 21, il est dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et c'est clair, le jugement de ceux du dehors ne nous concerne pas. Ce que Dieu veut, c'est uniquement qu'on aime. Et cet amour, il est actif, il est volontaire, il est décidé. Comment on surmonte le mal ? Comment triompher de lui ? En faisant du bien. C'est comme ça qu'on surmonte le mal qui est à l'extérieur et le mal aussi dans notre vie. On vous fait du mal, vous faites du bien. Vous savez, on chante un cantique, cantique de César Malan. C'est le 315. C'est dans la paix que tu dois vivre. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Tu pourrais prendre le cantique dans les aides de la foi, 315. Il va être projeté pour ceux qui n'ont pas de recueil. Il dit donc, c'est dans la paix que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur. Par son esprit, ton âme doit le suivre sur le sentier de la douceur. Sur le sentier de la douceur. Dieu veut qu'on soit doux. Doux dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos actions. Il veut qu'on soit doux. Si contre toi s'élève quelque offense, si l'on te hait, si l'on veut t'opprimer, ferme ton cœur à la vengeance. Comme ton Dieu, tu dois aimer. Bien loin de toi, que toute haine, que tout dépit soit toujours repoussé. Souffre en repos. Et l'insulte et la peine, et sans orgueil, soit abaissé. Oui, pour Jésus, pour ce roi des bonheurs, reçois le coup le plus humiliant. Bois jusqu'au fond la coupe amère, comme ton Dieu, sois patient. Ne sais-tu pas quelle est sa grâce, que de péché son amour t'a remis, qu'ainsi jamais ton support ne se lasse envers tes plus grands ennemis. S'ils sont cruels, si leur haine s'attise, de ta bonté rouvre-leur le trésor. S'ils sont hautains, s'ils te méprisent, comme ton Dieu pardonne encore. Ce n'est pas toi que hait le monde, c'est ton Sauveur qui ne connaisse pas. Ah, plains-les donc, leur misère est profonde. Contre Dieu se lèvent leurs bras. Tends-leur la main au bord du précipice. S'ils sont tombés, cours et sois leur soutien. Et pour punir leur injustice, comme ton Dieu, fais-leur du bien. Et cette fin est magnifique. C'est magnifique. Elle reflète la pensée de Dieu. Pour punir leur injustice, comme ton Dieu, fais-leur du bien. On vous fait du mal, vous rendez du bien. On vous fait du mal, vous faites du bien, vous bénissez, vous priez. Alors certains ont pour arme des kalachnikovs, d'autres ont pour arme des crayons. Et ils blessent chacun à leur manière. Hein. Pour nous, nos armes, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est la prière, c'est le fait de bénir. C'est ça nos armes. Alors, eh bien, on veut aimer les hommes, quels qu'ils soient, et leur faire du bien. Nous ne sommes pas Charlie, nous sommes chrétiens. En tout cas, moi, je ne suis pas Charlie, je suis chrétien. Et en tant que chrétien, eh bien, je soutiens, certes, mais je le fais parce que chacun a le droit de s'exprimer. Et ils avaient le droit aussi de s'exprimer, même si nous n'étions pas d'accord en tout. On va s'incliner dans la prière.